Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. On vieillit. Le phénomène est inéluctable, on le sait tous, à l'exception de quelques forcenés du transhumanisme. Mais on vieillit davantage dans certains pays plutôt que d'autres. Affichant une accélération sans précédent dans l'histoire, la population mondiale va atteindre 7 milliards 700 millions d'êtres humains d'ici l'an prochain. Mais un quart des pays de la planète verront leur population baisser. Et c'est en Europe que le phénomène est le plus marquant. On vieillit, on fait moins d'enfants et on émigre. Si les phénomènes migratoires influencent depuis plusieurs années déjà l'évolution politique de nos démocraties, on s'intéresse davantage à l'immigration. On vient d'en voir l'impact dans les dernières élections régionales en Allemagne et on néglige souvent les effets de l'émigration. Ce sont les 11 pays d'Europe centrale et orientale, anciennement communistes, qui sont les plus frappés. Jusqu'à quel point est-ce là une clé de la vague populiste qui les submerge? Quelles en sont les traductions politiques et culturelles dans des pays à l'identité nationale malmenée par l'histoire? Fuite des cerveaux, refus de l'immigration, comment leurs économies font-elles face? Au sud de l'Europe, la Grèce, le Portugal et surtout l'Italie sont confrontés au même déclin démographique. La Grèce a viré à droite, le Portugal reste à gauche, en tout cas jusqu'aux élections d'octobre prochain. L'Italie est gouvernée par un attelage baroque et fragile, sans que son opinion publique s'en émeuve outre mesure. L'Europe face à ces fractures démographiques, telle est la question que nous allons explorer ce matin. Grâce à vous, Agnès Fiel, vous êtes chercheuse à l'université de Varsovie, à l'université de Versailles et de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes démographe. Avec nous par téléphone, et je l'en remercie, François Errant, démographe, anthropologue, professeur au Collège de France. Et ici en studio, Marc Lazare, vous êtes professeur à Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Jacques Rupnik, directeur de recherche aux séries de Sciences Po, et par téléphone aussi depuis Vienne en Autriche, Ivan Krastev, qui est président du Centre de stratégie libérale à Sofia en Bulgarie et qui est aussi chercheur à l'Institut de sciences humaines à Vienne. Marc Lazare, je commence avec vous. Vous signez avec un collègue italien un ouvrage sur le populisme que vous avez intitulé « Peuplecratie » chez Gallimard. Parmi tous les facteurs qui, selon vous, alimentent ce phénomène, le mot est devenu un peu valise d'ailleurs, on a tendance à fourrer beaucoup de notions en son sein. Et jusqu'à quel point est-ce que la fragilisation du sentiment d'identité est selon vous un ressort majeur?
Alors dans le cas de l'Italie, ça me semble un élément effectivement très important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une baisse démographique de l'Italie et je crois que l'Italie vient d'en prendre conscience progressivement. Il y a un vieillissement très important de la population, on pourra revenir sur les données. Il y a un recul de la population, depuis 2015 c'est 100 000 personnes en moins. Il y a un accroissement, un solde naturel négatif, il y a plus de morts que de naissances. C'est un élément qui frappe les Italiens. Il y a une population âgée, 23% des Italiens ont plus de 65 ans, par comparaison 19% en France. Donc ça, c'est un premier élément et qui est, comment dire, confronté, qui est défié par le fait qu'il y a une immigration régulière maintenant en Italie, plus de 5 millions de personnes. Et ça, c'est quelque chose qui a provoqué un choc dans un pays qui, dans sa longue histoire, a été une terre de passage depuis le 19e siècle, était un pays qui était plutôt homogène du point de vue de sa population, au-delà de la diversité des Italiens, des dialectes, des Italiens du Sud et des Italiens du Nord. Plus la question migratoire, c'est-à-dire les migrants qui sont arrivés, comme on le sait, dans des conditions dramatiques à partir de 2013 jusqu'en 2016. Et enfin, une émigration qui a repris en Italie, une double mouvement de migration du sud vers le nord et des Italiens qui partent vers l'étranger.
Mais si on sort pour le moment du cas italien, jusqu'à quel point est-ce qu'on voit, par exemple, dans les affres du Brexit, la même interrogation? Est-ce qu'il y a plusieurs fractures en fait en Europe? C'est-à-dire non seulement, et on va en parler en particulier avec Ivan Krastev et Jacques Rupnik, non seulement cette fracture, disons, ouest-est, mais aussi une fracture entre le nord et le sud.
Certainement, et je crois surtout que du coup, dans ces mouvements de population, à l'époque de l'européanisation, de la globalisation, mais aussi d'une situation économique et sociale particulièrement difficile, du coup, ça relance tout un débat sur qu'est-ce que c'est qu'être allemand, italien, français, espagnol, et que dans ce contexte-là, il y a un certain type de propositions et de réponses qui sont offertes par les différentes formations populistes.
François Héran, merci d'être au téléphone avec nous. Je rappelle que vous êtes anthropologue et démographe, professeur au Collège de France. Jusqu'à quel point, selon vous, ces différentes fractures démographiques au sein du continent européen, et intégrons pour le moment encore la Grande-Bretagne, jusqu'à quel point est-ce que ces différentes fractures correspondent à des symptômes ou à des facteurs identiques ?
Ben écoutez, le problème de la Grande-Bretagne, c'est que elle a plutôt une fécondité, une démographie qui se porte bien, et son problème, ce qu'elle accepte difficilement, c'est justement la forte migration des travailleurs venant de l'Europe centrale, venant de Pologne, de Hongrie, de Slovaquie, des Républiques tchèques, etc. Et une des raisons du Brexit, c'est l'attitude très particulière qu'elle a vis-à-vis de la libre circulation des Européens, qui pour elle est plus problématique finalement que la migration pakistanaise ou indienne, ce qui, d'un point de vue français, nous semble assez étonnant. Mais je voudrais évoquer en fait les grands facteurs du vieillissement, parce qu'on confond souvent plusieurs facteurs, et l'Europe se divise justement par l'importance relative de chacun de ces facteurs. Il y a effectivement la fécondité insuffisante, ce qu'on appelle le vieillissement par le bas, c'est-à-dire que la pyramide des âges se rétrécit à la base faute d'enfants, et il y a le vieillissement par le haut, qui est le fait que la vie s'allonge, et la France partage ceci avec tous les autres pays européens, avec l'allongement de la vie, il y a évidemment ce qu'on appelle le vieillissement par le haut. Et puis il y a une autre forme de vieillissement qui est le départ des jeunes, l'émigration des jeunes. Donc ces trois causes de vieillissement ne jouent pas du tout la même façon dans tous les pays. Ce qui est propre à l'Europe centrale, l'ex-Allemagne de l'Est, et désormais de plus en plus l'Italie, c'est que les trois causes jouent en même temps. Il n'y a pas seulement l'allongement de la vie, il n'y a pas seulement le départ des plus jeunes, qui est particulièrement sidérant dans des pays comme la Bulgarie ou dans les pays baltes, par exemple, et il y a aussi effectivement la basse fécondité. Donc la France a le bonheur de n'avoir pour l'instant essentiellement qu'une seule forme de vieillissement, qui est le vieillissement par le haut, l'allongement dû à l'allongement de la vie.
Les structures familiales jouent évidemment un rôle, autant au niveau des populations natives, dirons-nous, qu'au niveau des populations immigrées qui n'ont pas toutes les mêmes traditions culturelles.
Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a, au fond, l'Europe se divise, je dirais, dans le fait qu'il y a quand même, dans un certain nombre de pays européens, et ça a été longtemps le cas de l'Allemagne, c'est largement le cas de l'Italie, mais c'est vrai aussi de tous ces pays d'Europe centrale très catholiques, comme la Pologne et la Hongrie, il y a l'idée, et au fond, il y a deux croyances. Il y a l'idée que il faut être marié pour avoir des enfants, et qu'il faut rester à la maison, que les femmes doivent rester à la maison pour les élever. Et évidemment, l'influence de l'Église est très forte. Et ce familialisme, hein, être marié pour avoir des enfants, rester à la maison pour les élever, eh bien, il s'avère que maintenant, le familialisme est antinataliste. Ce sont les pays qui ont les conceptions les plus rigides de la structure familiale, de ce que doit être une famille authentique, qui finalement ont le moins d'enfants. Alors qu'à l'inverse, les pays qui ont pris le tournant de la cohabitation, comme la France, les pays scandinaves, évidemment, sont un exemple aussi, les pays qui ont une vision beaucoup plus souple des structures familiales, qui acceptent la cohabitation, qui acceptent le fait d'avoir des enfants hors mariage, etc., finalement ont une fécondité plus élevée. Et ça, c'est quelque chose que l'Église catholique, particulièrement présente hein, dans certains pays, comme la République tchèque, la Pologne, l'Hongrie, etc., n'est toujours pas arrivée à comprendre, c'est que des structures familiales rigides, le familialisme à l'ancienne, eh bien, va à l'encontre de la natalité.
Un mot encore sur la socialisation dans les pays d'accueil de populations immigrées. Je pense par exemple aux Syriens qui sont arrivés en Allemagne à partir de 2015. Jusqu'à quel point est-ce que les traditions culturelles qui voulaient que les femmes, et surtout dans les milieux les plus défavorisés, aient énormément d'enfants, jusqu'à quel point est-ce que ces attitudes changent ?
Oui, la Syrie ne se caractérisait pas par un taux de fécondité particulièrement élevé comparé au reste du Proche-Orient, mais il y avait quand même des variantes importantes entre les minorités, les Alaouites qui ont été très favorisés par le régime sur la côte méditerranéenne, avaient plus d'enfants que d'autres minorités qui étaient défavorisées, ça a été bien montré. Ce qui est important, c'est que quand on mesure ceci de façon très précise, ça fait longtemps maintenant qu'on le fait, les comportements de fécondité des femmes venant du pays et des pays du Sud, notamment des pays musulmans, s'alignent assez vite. Au bout d'une génération, c'est complètement fait. Alors, pour la première génération, celle qui est vraiment née à l'étranger et qui migre, tout va dépendre de l'âge auquel migrent les femmes. Si elles migrent tout à fait au début de leur vie féconde, évidemment, elles vont avoir un comportement qui est encore très proche de celui du pays d'origine, avec un surcroît de fécondité qu'on mesure parfaitement, qui est de 1,1 un enfant et demi de plus en moyenne par rapport à la moyenne de la population française. Si elles entrent très jeunes, et on a même pu mesurer rétrospectivement dans le passé que si elles entrent avant l'âge de 5 ans, elles migrent avant l'âge de 5 ans, et bien à ce moment-là, leur fécondité va être totalement identique à celle du reste de la population française. Donc en une génération, l'alignement se fait. Il y a un phénomène que pendant longtemps on n'avait pas compris, mais qu'on maintenant mesure très bien, c'est qu'une partie importante des couples attendent de franchir la frontière, attendent de s'installer sur le territoire pour avoir leurs enfants. Donc dans la première année de séjour, tout se fait un petit peu en même temps, le mariage, la formation de la famille, la naissance des enfants. Et donc elles sont en moyenne, et ça c'est très surprenant, on l'a vu également pour les Mexicains aux États-Unis, il y a une sous-fécondité des immigrés juste avant, au moment d'entrer en France, et une sur-fécondité par la suite. Évidemment, la sur-fécondité est plus importante que la sous-fécondité d'avant. Et il faut des enquêtes qui interrogent les familles non seulement sur les naissances survenues en France, mais sur les naissances qui étaient survenues avant. Et quand on connaît l'ensemble de l'histoire génésique, comment dire, de l'histoire familiale des familles, on s'aperçoit que finalement les naissances se concentrent souvent dans les premières années de séjour. Il faut ensuite prendre une mesure qui va durer tout au long de la vie. Et souvent, on prend des mesures de fécondité comparatives entre les immigrés et les nationaux juste au moment où elles viennent d'entrer sur le territoire, c'est les premières années d'installation, mais c'est un petit peu comme si on mesurait, c'est Gilles Pison qui a fait cette comparaison, c'est un peu comme si on mesurait la vitesse moyenne d'un automobiliste sur une autoroute en privilégiant, n'est-ce pas, le temps d'attente au péage. Oui. Il y a effectivement une mesure, un biais important. Non, ce qui est vraiment très frappant, c'est l'alignement rapide de la seconde génération sur le comportement général. C'est encore plus vrai en Allemagne qu'en France. L'alignement est encore plus rapide. Les femmes turques qui migrent en Allemagne ont une fécondité qui, à la seconde, mais même à la première génération déjà, mais aussi à la seconde, est très peu différente de celle du reste de la population. Il y a vraiment un effet très fort du pays hôte, du pays d'accueil sur les comportements de fécondité.
Merci mille fois, François Héran, d'avoir été par téléphone avec nous, et intéressons-nous maintenant aux pays du monde où la population a le plus baissé. Grâce à vous, Ivan Krastev, bonjour. Vous êtes basé à Vienne, en Autriche. Vous êtes bulgare et vous présidez à Sofia le Centre de stratégie libérale. Comment se fait-il que la Bulgarie, qui est aussi le pays le plus pauvre de l'Union européenne, est celui où la population baisse de façon vertigineuse ?
C'est pas simplement le fait que c'est la population qui décline le plus, c'est aussi dans l'histoire moderne. La Bulgarie, c'est le lieu où la population décline de façon sans précédent en l'absence de guerre ou de famine. En 89, la population de la Bulgarie était autour de 9 millions d'habitants. Pour l'instant, on est autour de 7 millions. Et selon les projections des Nations Unies, autour de 2040, ce sera 5 700 000. Il y a trois raisons majeures à cela. La première, c'est bien sûr le taux de fertilité bas qui est véritablement celui de toute l'Europe en général, et principalement en Europe centrale et orientale. Deuxièmement, c'est aussi l'émigration. Quasiment 20% de la population a émigré au cours des dernières années. Et ce n'est pas simplement qu'il y a un type de population qui décline, c'est aussi une population qui vieillit. D'une certaine manière, je pense que le problème de cette population, c'est que c'est une des choses qui est le moins étudiée dans les changements qui sont apparus en Amérique centrale et orientale. Ce n'est pas simplement un problème bulgare. Entre 2007 et 2017, 3,4 millions de Roumains ont quitté leur pays et 70% d'entre eux ont moins de 40 ans, ce qui est le cas aussi en Bulgarie. Ce n'est pas simplement qu'il y a un taux de fertilité qui est bas, mais la plupart des gens qui sont jeunes et dont on peut s'attendre à ce qu'ils aient des enfants, les auront à l'extérieur de la Bulgarie.
On dit volontiers que dans ces pays anciennement communistes, les populations sont passées de la répression à la dépression.
C'est très important. Je crois qu'en sciences politiques, on n'était pas très conscient du fait que du poids de la démographie sur la façon dont la société se développait. Mais regardons le cas bulgare, et c'est le cas aussi en Europe centrale et orientale. Il y a quatre facteurs très importants qui ressortent de cette émigration et du déclin de cette population. En passant, le pourcentage de la population perdue au cours des 5 dernières années a été le meilleur prédicateur de la façon dont l'Europe allait voter pour l'extrême droite dans les dernières élections. Le déclin de la population se corrèle très très clairement avec les votes de l'extrême droite, beaucoup plus que le chômage ou le déclin du niveau de vie. Les jeunes n'ont pas besoin d'être les plus intelligents et les meilleurs. Ils ont besoin d'être énergiques. Et ce sont eux qui quittent le pays. Ça ne signifie pas seulement que les gens partent, mais c'est aussi l'argent qui a été investi dans leur éducation qui s'en va. Donc, l'émigration de l'Europe centrale et orientale, c'était le transfert invisible financier dont les gens ne parlent pas. Simplement parce que les gens partent. Il y a 10 ans, c'était vu de façon très positive, parce qu'il y avait un taux de chômage très important. Mais aujourd'hui, il y a un manque de main-d'œuvre dans ces pays. Le fait que les gens continuent de partir pour l'Occident signifie qu'aucun investisseur ne viendra parce que l'investisseur n'aura personne à engager. Et de façon paradoxale, tous ces régimes désagréables dont les gens parlent, en Est de l'Europe, eh bien ce sont eux les bénéficiaires du fait que les gens partent. Parce que la plupart des gens qui partent le pays ne partent pas simplement en raison des bas salaires, mais aussi parce qu'ils ne sont pas contents des développements politiques. Et c'est une importance critique, et la Roumanie est le plus grand exemple, parce que on va voir que chaque fois qu'il y a un candidat beaucoup plus libéral qui va remporter les élections, comme le président Klaus au cours des dernières élections, eh bien ça semble être dû simplement au fait que la diaspora vote de façon disproportionnée pour ce candidat-là. Eh bien, la réponse brève, c'est où sont les soutiens de la gauche? Eh bien, ils sont à l'Occident. Et ça change le poids du corps électoral, parce que ces gens voteront moins parce qu'ils ne sont pas dans leur pays depuis 5 ou 10 ans. Dernier effet est beaucoup plus psychologique. Même si vous vivez bien dans votre pays, est-ce que vous allez vous sentir vraiment dans une situation de réussite si tout le monde autour de vous dit qu'il est prêt à partir? Et je crois que c'est un des faits qui explique pourquoi, quel que soit le fait qu'il y a une croissance économique et qu'il y a des tas de développement positif dans les pays comme la Bulgarie, l'état d'esprit général de la population est vraiment très bas.
Jacques Rupnik, directeur de recherche à Sciences Po, il est quand même frappant que c'est bien dans ces 11 pays anciennement communistes, dont la plupart, à l'exception de la Pologne, sont en fait de petits pays, de petites nations, dont les frontières ont été plusieurs fois dans l'histoire modifiées, avec des minorités, des transferts de population. C'est dans ces petits pays que la problématique telle que vient de l'expliquer Ivan Krastov se pose de la façon la plus aiguë.
Oui, la question démographique est liée à la question nationale. Et donc, c'est des pays qui ont subi dans leur histoire à la fois des changements de frontières, la fin des empires, création des États qui ont été redessinés, des traumatismes qui étaient à la fois politiques mais aussi démographiques. Prenez la Deuxième Guerre, les années 30 pour des pays comme l'Ukraine. Et au passage, je dirais, plus on va à l'Est, plus le déclin démographique est accentué. Donc là, on parle des pays d'Europe centrale, Pologne, Hongrie, etc. Mais l'Ukraine, c'est une catastrophe démographique en ce moment, mais aussi historiquement. Et la Russie a elle-même, évidemment, sa grande angoisse démographique. Mais évidemment, elle ne se pose pas dans les mêmes termes pour une grande nation comme la Russie et pour, disons, l'Estonie qui a 2 millions d'habitants ou la Slovénie qui a 2 millions, la Slovaquie qui en a 5 millions. Donc, vous avez le traumatisme de la guerre. Timothy Snyder, l'historien, a appelé ça les terres de sang. Donc, oui. C'est des pays qui ont été saignés. Et la Pologne, pendant la guerre, 6 millions de morts, dont la moitié population juive. La Yougoslavie, plus d'un million de morts, etc. Donc,
plus
il y a
récent.
Un traumatisme démographique de la Deuxième Guerre mondiale, les déplacements de population. Donc, vous avez déjà ces traumatismes historiques qui sont liés à la démographie. Et ensuite, vous avez le contexte qui a été évoqué là récemment. Et après 90, la fin du rideau de fer, c'est peut-être l'acquis le plus important pour les populations de l'Est. Quand on faisait des sondages dans les années 90, quelle est la chose qui est pour vous la plus formidable, la plus importante de ce qui s'est passé? La liberté de partir, la liberté, l'ouverture des frontières.
Et la ruée vers l'Ouest.
La ruée vers l'Ouest, mais ça ne voulait pas dire forcément migrer, c'était simplement pouvoir sortir de l'enfermement, en quelque sorte, dans lequel ils étaient depuis la Deuxième Guerre mondiale. Or là, nous avons un retournement spectaculaire, c'est que dans les mêmes sondages aujourd'hui, si on pose la question, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir les frontières avec la possibilité de migrants qui entrent, ou est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'à la fermeture de la frontière, y compris le rétablissement des contrôles aux frontières dont vous vous êtes débarrassé après 89? Eh bien, vous avez une majorité dans plusieurs pays de cette région qui disent non, finalement, si c'est ça le choix, l'invasion migratoire ou possibilité de voyager librement, eh bien, nous préférons garder, protéger nos frontières. Donc, je crois que... Et l'angoût... Je crois que derrière tout ça, il y a cette... Ivan Krastev, finalement, c'est ça un petit peu ce qu'il dit, et je le rejoins là-dessus. Il y a derrière ça une angoisse pour la survie de la nation, des petites nations qui ont été ballottées au cours de l'histoire et qui subissent un choc démographique de l'ampleur de ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire quand vous perdez, comme la Roumanie et la Bulgarie, 20% de votre population en l'espace de 10 ans, et les autres, c'est un peu la même tendance, mais peut-être dans des proportions un peu moindres, et bien entendu que vous êtes peut-être plus vulnérable ou plus sensible au discours identitaire, protectionniste que vous propose un Viktor Orban ou un Kaczynski et quelques autres.
Agnieszka Fiel, vous êtes démographe, vous travaillez notamment à l'université de Varsovie, donc oui. La Pologne est votre pays d'origine. La Pologne est un cas très intéressant parce que c'est un grand pays avec une population importante qui est sûrement celui qui a le plus bénéficié de l'entrée dans l'Union européenne, avec néanmoins un régime qui fait de l'identité nationale véritablement un ciment d'unification et qui se flatte, contrairement à l'idée qu'on s'en fait, d'accueillir une immigration importante. Expliquez-nous ça.
Oui,
de quelle immigration s'agit-il?
Peut-être que ce n'est pas un fait connu, mais Pologne, elle délivre le nombre de permis de séjour le plus grand en Europe pour des ressortissants du pays tiers maintenant. Il s'agit surtout de travailleurs de l'Ukraine qui viennent travailler dans l'industrie agroalimentaire, dans l'agriculture, dans les services en tant que domestiques. Pourtant, ça aggrave les tendances xénophobiques parce que c'est un phénomène tout à fait très 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 récent. C'est depuis 3, 4, 5 ans qu'on voit bien, les Ukrainiens travaillaient de plus en plus dans en magasin, dans le service domestique, etc.
Il faut quand même souligner que les Ukrainiens, en tout cas ceux qui émigrent en Pologne, sont chrétiens. Ce qui est un facteur évidemment très important par rapport à l'idéologie de Kaczynski.
Et en plus, ils apprennent la langue polonaise très très rapidement. Donc,
mais ils ont bien du mérite.
Oui, donc déjà, c'est la même tradition, c'est la même culture, c'est la même religion presque. Donc, c'est la religion chrétienne. Donc, mais je pense pas que ça soit. Le fait qu'ils viennent de l'Ukraine, que ça soit le plus important, c'est plutôt la xénophobie, un mépris vers l'autre qui vient de l'étranger.
Si on élargit le prisme à l'Europe centrale et orientale, on voit en fait que les mêmes facteurs sont à l'œuvre avec une vieillissement, baisse de la natalité et fuite des cerveaux.
Oui, déjà, il faut parler de la précarité sur le marché du travail. Il faut bien dire de parler de recul de politiques sociales dans les années 90, au début des années 2000, qui faisait que les jeunes partaient, même sans cherchant de l'emploi après leurs études en Pologne. Mais en même temps, il y avait une grande demande de travail dans le service qui était mal payé, qui n'exigeait pas des compétences.
Donc des travailleurs non qualifiés qui sont partis, et notamment en Grande-Bretagne. C'est d'ailleurs ce qu'expliquerait François Héran tout à l'heure. Oui. Quand les partisans du Brexit disent, crient haro sur l'immigration, il ne s'agit pas d'une immigration venue du Moyen-Orient, il s'agit bien d'une immigration venue grâce à la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union européenne, venus de ces pays.
Oui, tout à fait. Donc voilà, les Polonais, ils partaient pas seulement en Angleterre, mais aussi en Irlande, en Allemagne, et partout en Europe, en France, en Espagne, en Italie. Mais c'était aussi un phénomène de la génération de baby boom qui a été née au début des années 80. C'était le même moment où ils étaient, le moment de l'élargissement de l'Union européenne de 2004. C'était le même moment où ce baby boom a passé à l'âge adulte. Donc, il y avait une grande partie des jeunes qui cherchaient même pas du travail dans leur pays d'origine.
Jacques Rupnik, la Hongrie, on sait que Viktor Orban, qui a eu un parcours politique tout à fait typique de cette génération du baby-boom. Il a bénéficié d'une bourse de George Soros, qui est pour lui devenu l'ennemi public numéro un, le financier et philanthrope américain. Et Orban se pose maintenant en champion de l'identité dans ces pays d'Europe centrale et orientale. Jusqu'à quel point est-ce qu'il fait des émules? Est-ce qu'il, véritablement, il fait école?
Il fait école parce que, une illustration, quand le président tchèque, M. Zeman, le rencontre il y a quelques mois, avant l'été, le président tchèque le félicite d'avoir construit sa clôture parce que vous avez créé ce rempart et vous jouez le rôle historique de la Hongrie, empêcher l'invasion ottomane. Et donc, il fait le lien entre l'immigration récente de 2015 et l'invasion qui venait aussi via la Turquie et la route des Balkans. Donc oui, Orban est donc en Europe centrale, c'est lui qui crie le plus fort, mais il a, je crois, il représente assez bien une attitude générale. Ce qui peut-être mérite d'être signalé, c'est que oui, il a joué sur ce réflexe de peur, de crainte. Le grand remplacement, le thème du grand remplacement, Orban l'utilise régulièrement dans son discours, et Soros est la bête noire, c'est lui qui est le responsable, c'est lui qui est le symbole de l'ouverture. Donc vous avez le monde cosmopolite, l'ouverture, et le grand remplacement d'un côté et la défense et la protection de
la
nation.
Mais il y a beaucoup de Hongrois et surtout de jeunes Hongrois qui quittent la Hongrie.
Alors voilà, et c'est ça qui peut-être n'est pas suffisamment connu en Occident, c'est que depuis la décennie Orbán, puisque maintenant c'est quasiment 10 ans au pouvoir, les estimations sont pas précises, mais en gros entre 350 000 et 500 000 Hongrois ont quitté le pays.
Sur une population de
population de 10 millions. C'est quand même beaucoup. Et cette population-là qui a quitté la Hongrie sont principalement des jeunes diplômés qui partent non pas pour chercher du travail, mais qui partent en gros parce qu'ils ne considèrent pas qu'ils ont un avenir dans un tel pays. La Hongrie manque de main-d'œuvre. L'Europe centrale manque de main-d'œuvre. La République tchèque a le taux de chômage le plus bas dans l'Union européenne, 2,9. Ils font d'ailleurs une campagne en disant si les Français veulent venir travailler ici, ils sont les bienvenus. Bon, c'est un discours un peu ironique. Vous avez un problème de chômage, venez, on peut vous aider. Donc, Orbán a besoin de main-d'œuvre. Il est très lié à l'industrie automobile allemande particulièrement. C'est ce qui l'a amené à adopter une loi qu'on appelle la loi d'esclavage, mais qui en gros permettait de faire des heures supplémentaires, 250 heures supplémentaires par an, mais payées au bout de 3 ans seulement. Bon, c'est pour ça que ça a été appelé la loi de l'esclavage. Le thème était un peu fort, le mot était un peu forcé, mais c'était pour faire plaisir à l'industrie automobile installée en Hongrie et qui ne trouvait pas de main-d'œuvre. Donc, il y a la population qui s'en va, il y a un manque de main-d'œuvre et en même temps, on fait une campagne contre l'immigration. Chercher l'erreur, disons, entre l'économie, les besoins de l'économie hongroise qui se porte plutôt bien, et le discours du repli, il y a quelque chose, il y a une contradiction essentielle que Orbán devra résoudre, ou peut-être d'autres s'il leur donne la possibilité de lui succéder.
Hamdam Mostafavi, bonjour. Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, notre partenaire, et vous vous êtes intéressée dans la presse internationale et surtout balkanique au cas de la Croatie. Alors la Croatie, c'est très intéressant, c'est l'un le premier pays balkanique à être membre de l'Union européenne, et c'est un pays qui perd véritablement des habitants par milliers.
Oui, ils ont perdu 250 000 habitants en quelques années et selon les projections, ils pourraient en perdre encore 1 million d'ici 2050 sur une population de 4 millions, un peu plus de 4 millions de personnes. Donc en effet, la Croatie se dépeuple et c'est même la plus grande préoccupation du pays aujourd'hui, selon le quotidien anglophone Dubrovnik Times. Dans certaines régions, c'est presque un quart de la population qui est partie. Par exemple, dans la région d'Imotski, dans l'est du pays, le Slobodna Dalmatia, plus grand quotidien de cette région, raconte que près de la gare routière d'Imotski, un mur a même été érigé. Il est surnommé le mur des lamentations. Y sont inscrits les noms de toutes les personnes qui ont quitté la région depuis 2011 et elles sont plus de 8000. Alors, beaucoup d'entre eux partent vers l'Allemagne, on l'a entendu tout à l'heure, à la recherche d'un gagne-pain, nous explique le Jutarnyi List, et à Imotski, ceux qui repassent au pays affichent leur réussite économique en revenant au volant d'une Mercedes, la voiture allemande par excellence, à tel point que la petite ville va ériger un monument à la célèbre voiture. Monument qui, selon le journal de Zagreb, n'est pas seulement un monument à la gloire de la voiture, mais aussi un monument en l'honneur de l'immigration économique. Ce qui ne risque pas évidemment de diminuer le nombre d'aspirants au départ, alors qu'en outre cette immigration économique, le pays doit aussi faire face à un vieillissement de la population comme les autres pays de la région. La génération des 25-45 ans étant celle qui parle le plus, il y a de moins en moins de familles et d'enfants. Pour preuve, constate le site de la radio-télévision croate, HRT, cette année, il y a de moins en moins d'élèves en première année de primaire, l'équivalent du CP chez nous. En 5 ans, c'est 200 classes qui ont disparu dans le pays et cette structure démographique devrait créer des problèmes majeurs à long terme. Et c'est le journal Večernji List qui s'en inquiète, car d'ici la fin du siècle, il pourrait y avoir seulement un actif pour 2 retraités.
Le paradoxe, c'est qu'il y a en même temps un essor économique en Croatie.
Oui, tout à fait. Et alors que ces jeunes Croates émigrent vers l'Allemagne, l'Autriche ou l'Irlande, le pays souffre d'une inquiétante pénurie de main-d'œuvre, comme le note le quotidien indépendant Novi List. outre le tourisme et le bâtiment, de nombreux emplois sont à pourvoir, par exemple dans les services ou la santé. Et impossible de trouver des travailleurs dans les pays voisins, puisque la Bosnie et la Serbie sont touchés par le même phénomène d'émigration. Résultat, les employeurs ont recours, comme en Pologne, on l'évoquait tout à l'heure, ils ont recours à la main-d'œuvre étrangère. Cette année, 65 000 visas de travail ont été émis en Croatie, contre 400 il y a 5 ans. C'est le Novi List qui nous le précise. Dans le bâtiment, on embauche des travailleurs venus d'Inde, du Pakistan, tandis que dans le tourisme, on compte plutôt sur les ressortissants philippins. À l'avenir, les employeurs croates pensent aussi se tourner vers des pays comme le Sri Lanka, le Venezuela, l'Honduras et Porto Rico. Et comme le note le journaliste allemand Nober Marbest Diep sur le site de la Deutsche Welle, il ne faut pas oublier que ces pays font partie de l'UE, notamment la Croatie, et les solutions au dépeuplement sont peut-être aussi à trouver du côté de l'Union européenne, en réformant par exemple le Fonds de cohésion européen. En effet, dit-il, quand des régions entières seront vides, les systèmes de retraite exploseront et il n'y aura personne pour s'occuper de la population vieillissante. Tôt ou tard, ce sera le problème de l'Union européenne tout entière.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Marc Lazare, revenons à notre chère Italie, dont on ne sait pas assez que c'est le pays le plus vieux du monde après le Japon. Je parle de la population, je ne parle pas de son histoire.
Oui, absolument. Et je crois que beaucoup de Français ont encore l'image de l'Italie avec la mamma et une ribambelle de bambini. C'est effectivement fini. Oui, c'est un pays extraordinairement vieux. Vous l'avez rappelé. C'est une des caractéristiques. Et ça a beaucoup d'implications parce que c'est un pays gérontocratique, y compris dans ses mentalités. Et c'est une des raisons, c'est pas la seule, du départ de nombreux jeunes qualifiés. Une des raisons du départ des jeunes qualifiés, c'est bien évidemment le fait de pas trouver un travail et d'essayer d'en trouver ailleurs, et en particulier en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, pour prendre les principaux pays de destination. Mais c'est aussi le sentiment qu'ont beaucoup de jeunes que c'est extraordinairement difficile d'avoir des promotions rapides, même si vous trouvez un travail, d'avoir des promotions rapides dans un pays qui est devenu, qui a une mentalité, si j'ose dire, de vieux. Alors, pourquoi en est-on arrivé là, hein? Et encore une fois, depuis 2015, la population régresse de 100 000 habitants chaque année, hein? Et c'est vraiment quelque chose dont je crois, oui, je le disais tout à l'heure, les Italiens commencent à prendre conscience. Alors, j'étais très intéressé par ce qu'a dit François Héran tout à l'heure, parce qu'il dit, effectivement, il y avait ce modèle d'être marié pour avoir des enfants et que les femmes restent à la maison.
Et le poids de l'Église catholique, qui même en Italie décline.
Alors, justement, en Italie, le poids de l'Église catholique décline, et ça, c'est effectivement un élément important. Les femmes ont accès au marché du travail, mais dans des conditions difficiles, ce qui fait qu'elles retardent la conception du premier enfant. L'âge moyen du premier enfant pour une femme en Italie est de 32 ans, en France est de 28 ans. Je parle sous votre contrôle, de la contrôle de la démographe. Donc c'est un élément important. Je crois qu'il y a plusieurs explications. La première explication, c'est l'absence, justement, d'une politique publique en faveur de la natalité en Italie. La
République... Et ça, c'est le poids du fascisme.
Voilà,
aussi.
Ça, je pense que c'est un élément très important. Il y a un poids véritablement du fascisme. Le fascisme a voulu faire une politique nataliste, qui n'a pas eu d'ailleurs tous les effets qu'il espérait, mais puisqu'il y a eu toujours une émigration très importante, y compris sous le fascisme. Mais l'idée du Duce, c'était d'avoir des enfants pour le Duce et pour la guerre. Hein. Et ça a eu un impact limité, mais ça a eu un impact. Et par conséquent, la République, qui se définissait avec la catégorie fondamentale de l'antifasciste, ne voulait pas faire de politique publique. Et effectivement, comme l'a rappelé François Héran, ça reposait sur ce modèle, la femme à la maison et le mariage. C'est un modèle qui a évolué, mais sans, jusqu'à une date récente, parce que et les gouvernements de Silvio Berlusconi et les gouvernements du centre-gauche ont commencé à faire des politiques incitatives pour la natalité. Mais oui, c'est un pays qui est vieilli, et d'ailleurs je constate qu'à la fois du côté de Matteo Salvini, le leader de la Ligue, mais y compris dans les 29 points du programme qui vient d'être établi par le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate.
Donc le nouveau gouvernement.
Le nouveau gouvernement sous l'autorité de Giuseppe Conte, qu'on appelle en Italie Giuseppe Conte numéro 2, il y a à plusieurs reprises une série d'indications programmatiques politique pour faire quelque chose en faveur des jeunes. Et il faut reconnaître que les gouvernements italiens, par exemple, ont pris des mesures pour essayer de faire rentrer des jeunes qualifiés, avec, d'ailleurs en France aussi on le fait, hein, des incitations financières pour trouver, pour ramener, pour rendre attractive l'Italie. Et ça, c'est vraiment un très gros problème en Italie. Et j'entendais ce qui était dit sur l'Europe centrale et orientale, mais il y a beaucoup de choses qu'on retrouve en Italie. Des villages et des villes qui sont abandonnées, le fait, ce sentiment que les jeunes ont quitté justement le pays, c'est un élément très important. Ça crée un profond malaise en Italie, et encore une fois lié en plus, amplifié par la question de la présence de l'immigration.
Alors, une immigration régulière, commençons par celle-là, avec énormément de Roumains, oui. Par exemple, des Albanais, enfin beaucoup de gens venus des Balkans.
Absolument, contrairement à ce qu'on pense, d'abord l'Italie a plus de 5 millions d'immigrés, et la majorité, plus de 53% de ces immigrés, sont des Européens. Dans l'ordre, effectivement, les Roumains, 1 million 200 000, les Albanais, les Ukrainiens, les Moldaves, les Polonais, on en a parlé, les Macédoniens. Donc c'est une particularité ici de l'immigration, et il y a bien sûr une présence marocaine, 416 000 exactement marocains, 8% de la population.
Là on parle de l'immigration régulière, illégale, hein, dont l'économie italienne a besoin.
Elle a besoin surtout dans le Nord, d'un côté parce que le taux de chômage est extraordinairement faible et les entreprises du Nord ont besoin d'une main d'œuvre. Elle est présente aussi dans le Sud, notamment pour les travaux agricoles que beaucoup d'Italiens ne veulent plus faire, et aussi dans beaucoup de travaux de services. Il y a une immigration aussi asiatique, en particulier chinoise, qui est implantée dans le pays. Et évidemment, de ce point de vue-là, ça constitue un choc, même un traumatisme. Et lorsque Jacques Rupnik évoquait Orban en disant qu'effectivement il a fait des émules, il en a fait en Italie, en la personne de Matteo Salvini.
Car avec, pour l'un comme pour l'autre, le soutien de Moscou.
Alors, d'un côté, le soutien de Moscou, dans le cas de la Ligue, même un soutien financier qui a été dévoilé par des enquêtes journalistiques, et maintenant il y a des enquêtes judiciaires, et c'est quelque chose qui empoisonne maintenant la vie de Matteo Salvini, même si lui, apparemment, à titre personnel, n'est pas impliqué, mais son entourage. Mais du point de vue des thématiques mises en avant par Matteo Salvini, il y a cette idée de la nation. Et comment définit-il la nation? D'abord par une dimension de type droit du sang, hein, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler ethnique. On est italien parce qu'on est descendant d'Italiens, et donc tout le débat qu'avait engagé le centre-gauche à l'époque de ses gouvernements, c'est-à-dire 2013-2018, où justement, devant la situation italienne, d'un côté un déclin démographique important, d'autre part cette composante d'une immigration de plus de 5 millions de personnes, et qui, malgré la xénophobie, vous en avez parlé pour la Pologne, elle existe aussi en Italie, mais en même temps il y a des processus d'intégration, donc l'idée c'était de dire on va faire le droit du sol, et Matteo Salvini s'y oppose. On y est italien par le droit du sang, et d'autre part par une dimension culturelle, et cette dimension culturelle c'est le catholicisme italien, et le catholicisme le plus traditionnel, pas celui du pape François, d'où le fait, ça a été remarqué dans beaucoup de médias français, le fait qu'il embrasse maintenant régulièrement le rosaire, le fait qu'il jure sur la Bible, le fait qu'il remercie la Madone, quand bien même...
Enfin, là, dans l'opposition, il aura plus de temps pour aller à la messe.
Oui, mais, comme vous savez, il ne fait pas qu'aller à la messe.
Certes. Mais là, on parlait de l'immigration régulière. Mais il y a un autre élément, évidemment, majeur, c'est que l'Italie, à juste titre, s'est sentie complètement abandonnée par les autres membres de l'Union européenne face à ce qu'il faut bien appeler une déferlante d'immigration illégal, pays de première entrée, selon les accords de Dublin, venu du Moyen-Orient et venu d'Afrique subsaharienne.
Absolument, vous avez raison, ça s'est produit entre 2013-2014 jusqu'en 2016-2017. À partir de 2017, c'est beaucoup ralenti par l'action du ministre de l'Intérieur des gouvernements de centre-gauche qui passe des accords avec la Libye, dans des conditions d'ailleurs qui interpellent beaucoup et qui sont critiquées par les organisations non gouvernementales. Et à l'issue de ces 14 mois de gouvernement Mouvement 5 étoiles Ligue, Matteo Salvini a durci cette position en particulier, ça a été très, évidemment très médiatisé, l'interdiction pour les ONG qui avaient des navires qui portaient secours aux migrants d'entrer dans les ports italiens.
Et donc on va voir ce qui se passe maintenant avec la nouvelle ministre de l'Intérieur qui est en fait une technocrate, si j'ai bien compris.
Oui, c'est une ancienne préfète de Milan, on va voir ce que ça va donner, mais c'est clair qu'il y a une sensibilité très forte des Italiens, vous avez raison, par rapport à cette population de migrants qui a effectivement déferlé en Italie et pour lesquels les Italiens se sont sentis abandonnés. Donc, et on peut rajouter une autre réalité qui explique aussi ces réactions xénophobes, cette action populiste qui profite de tout cela, c'est la présence de cette immigration clandestine très forte en Italie, répandue dans tout le territoire italien, que n'importe quel touriste voit dans la rue, parce que c'est les, en général très souvent une immigration d'origine africaine qui vous interpelle pour vous proposer des tas de petites choses. Le parapluie, quand tout à coup la pluie tombe à Rome, ce qui est toujours très utile, pour 2 euros vous avez le petit parapluie, mais au-delà de cette plaisanterie, c'est des gens qui sont dans des conditions d'exploitation épouvantables, et voilà, qui fait qu'en Italie, il y a actuellement cette d'un côté, cette interrogation, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, comme Italiens ? Les perspectives démographiques sont assez pessimistes pour l'Italie en tant que telle, et plus cette confrontation avec la présence de l'immigration régulière, l'immigration clandestine et l'arrivée des migrants qui sont dans des centres de rétention actuellement.
Jacques Rupnik, il y a aussi le cas d'un pays dont on ne parle plus beaucoup, sauf l'été, grâce aux îles. Il s'agit de la Grèce, qui est l'autre pays qui, et c'est le cas en ce moment, maintenant que la Turquie, semble-t-il, durcit les règles d'installation des réfugiés syriens sur son sol. Il y en a quand même 3,5 millions. On voit à nouveau les îles grecques, véritablement, face à un afflux de migrants. Et la Grèce est un cas intéressant parce que il y a là aussi une population immigrée légale, ou disons légalisée, qui sont d'abord les Albanais.
Il y a les Albanais qui sont venus au cours des 20-25 dernières années, et il y a une population grecque, une minorité grecque en Albanie aussi. Donc les Grecs aiment parler de l'Épire du Nord.
On se souvient des difficultés de parvenir à un accord sur le nom de la Macédoine.
Ces Albanais d'ailleurs en Grèce s'adaptent très vite, travaillent, s'assimilent. Il y a pas de grand problème de ce côté-là. Le problème, il est beaucoup plus à la fois dans la définition grecque de la nationalité, de la citoyenneté.
Liée à la religion.
Voilà. Donc ils avaient, jusqu'à une période très récente, ils avaient la religion.
Sur le passeport.
Sur le passeport. Donc c'était le marqueur. Et l'Église est bien entendu l'institution nationale la plus, disons, à laquelle, qui s'identifie le plus à la nation.
Pour des raisons historiques.
Voilà, pour des raisons historiques. Voilà, l'héritage de l'Empire ottoman, c'est par l'Église que les peuples des Balkans, mais ça vaut pour les Bulgares, les Serbes et quelques autres, c'était la seule incarnation, la seule institution qui pouvait garantir la perpétuité, la pérennité de la nation. Mais il y a surtout ce qu'ont fait récemment les Turcs, c'est-à-dire que les Turcs sont censés être le verrou pour l'immigration venue, pas seulement du Moyen-Orient, comme on le dit, mais qui vient
d'Afghanistan
et de partout. Et les Turcs, quand ils veulent se rappeler à votre bon souvenir, mais au souvenir des Européens, Angela Merkel entre autres, ils ouvrent les vannes, par exemple. Et là, on a eu récemment, de temps en temps, ils rappellent l'indispensable partenariat avec la Turquie pour contrôler cela. Et pour un petit pays comme la Grèce, c'est évidemment très très difficile à gérer. J'ajouterai un dernier mot. Lors de la crise migratoire, mais ça continue sous une autre forme atténuée depuis, de la Grèce, qui est dans Schengen, mais qui n'a pas de frontière avec le reste de l'Europe, les migrants traversent via les Balkans. Et donc, ça permettait au ministre des Affaires étrangères serbe de dire « Nous sommes envahis par une migration venue de l'Union européenne. » Par là, il voulait dire de Grèce. Sous-entendu, les Balkans, les pays des Balkans, sont indispensable pour trouver une solution à la question migratoire pour l'Union européenne. Donc c'est une façon d'inclure les Balkans dans la problématique de l'Europe, même si on ne veut pas parler ouvertement de l'élargissement. Ils font partie de la solution parce qu'ils sont la zone de transit.
Et là, on a vu plusieurs dirigeants européens, à commencer par Emmanuel Macron, dire qu'il n'était pas question à court et même à moyen terme d'élargir davantage l'Union européenne, semble-t-il,
oui.
Et notamment
de la Serbie. Alors, il faudra peut-être inventer un autre élargissement, ça c'est voilà, mais il y a toute une série de questions qui sont des questions de sécurité, qui sont des questions migratoires, etc., où l'Europe a absolument besoin d'être impliquée et d'avoir un partenariat avec les pays des Balkans.
Agnieszka Fiel, en Pologne, on a vu, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, ce mouvement vers l'ouest de cette génération du baby-boom, comme vous nous l'expliquiez. Mais on voit aussi aujourd'hui un régime qui continue de bénéficier des subventions européennes pour son économie, mais qui érige en fait un nationalisme polonais qui est presque devenu anti-européen, enfin anti-Union européenne.
Ce discours de identitaire, moi je dirais qu'il y a aussi un autre facteur qui joue un rôle très important, parce que ce discours identitaire se met en opposition par rapport à l'approche qui régnait dans les années 90-2000, cette approche de l'euro-enthousiasme ou l'euro-optimisme qui marginalisait un petit peu le rôle d'histoire polonaise, le rôle de la tradition et de la culture polonaise, qui les mettait aussi en cause pour tous les défauts du système socio-économique, donc les inégalités sociales, la précarité du marché du travail, tous les problèmes avec l'infrastructure, aussi les problèmes avec des zones rurales, des zones périphériques. Donc maintenant, on voit bien cette tendance de discours identitaire qui rend la dignité, elle rend la fierté aux Polonais, ou peut-être c'est aussi le cas hongrois aussi, la fierté aux gens d'être polonais, est-européen, d'être hongrois. Et voilà, c'est ça que je vois plus. Le déclin démographique, c'est un phénomène qu'on voit tout récemment. Au moins,
on étudie récemment.
Voilà, ouais. Exactement, c'est que l'opinion publique voit tout très récemment. C'est plutôt, je vois bien cette opposition par rapport à l'euro-enthousiasme.
Et on verra ce que ça donne aux élections d'octobre, les élections législatives en Pologne. On retourne à Vienne, vous rejoindre Ivan Krastev, et restons sur ce sujet du rêve européen, l'ouest de l'Europe, pour ces pays d'Europe centrale et orientale. Est-ce que ce rêve s'est maintenant dissipé ou est-ce qu'il s'est assombri ?
D'une certaine manière, bien sûr, les pays du centre et de l'Europe de l'Est avaient des attentes irréalistes. Si on revient en lisant les livres et les papiers publiés tout de suite après la chute du mur, les gens étaient certains qu'en une décennie, on arriverait au standard de vie, au niveau de vie des Français, des Autrichiens, des Allemands. De ce point de vue, il y a beaucoup de déceptions. Mais il y a une certaine différence entre la déception qu'on voit à l'Occident et celui qu'on voit du côté de l'Europe centrale et orientale. Du côté occidental, il y a les eurosceptiques avec une déception sur le projet européen. À l'Est, il y a deux genres de déceptions. D'abord, les gens pensaient qu'ils étaient traités en citoyens de seconde classe, deuxième classe. Au fond, qu'ils n'avaient pas les mêmes droits, le même respect que ceux dont jouissaient les pays de l'Ouest. Il y a eu des scandales comme celui de ce type d'obsession que certains des produits qui sont vendus dans les supermarchés à l'Est de l'Europe ont des ingrédients différents de ceux de l'Ouest. Vous savez, comme cette histoire de Nutella, ce scandale Nutella. Mais il y a quelque chose de très important. Les Européens du centre et de l'Est ne pensent pas que c'était mieux à l'extérieur de l'Europe. Donc s'il y a beaucoup de bruit, s'il y a beaucoup de scepticisme dans la façon dont l'Europe centrale et orientale est traitée, personne ne veut partir. Même les partis nationalistes, même les partis qui sont très anti-Bruxelles, tous veulent changer Bruxelles, mais personne ne veut quitter l'Union européenne.
Merci Ivan Krastev d'avoir été avec nous par téléphone depuis Vienne. Marc Lazare, on arrive pratiquement à la conclusion de cette émission. Est-ce que l'on peut dire que ces facteurs qui me semble-t-il, ont été minorés dans l'intérêt. Et encore une fois, plusieurs livres paraissent ces temps-ci, dont le vôtre, sur le populisme. On voit que ces facteurs démographiques, c'est-à-dire le vieillissement, la baisse de la natalité et aussi les pressions migratoires dans les deux sens, immigration, émigration, tout ça, c'est le creuset de l'Europe d'aujourd'hui.
C'est un des creusets de l'Europe d'aujourd'hui, c'est un des creusets et c'est un des vecteurs aussi de certains populismes. Là, il faut être, bien sûr, il faut nuancer pays par pays. Par exemple, la France est beaucoup moins touchée par l'émigration des Français, même si elle a été importante ces derniers temps, ce qui est une rupture historique dans un pays où, depuis Voltaire, on disait on ne va pas perdre son temps pour quelques arpents de neige à propos du Canada. Donc, il faut nuancer tout ça. Mais c'est vrai que c'est une des caractéristiques de l'Europe, c'est une inquiétude aussi de l'Europe, c'est une inquiétude des différents pays européens. Et c'est là-dessus que les populismes, alors pas n'importe lesquels, parce qu'il y a une variété de populismes, mais les populismes de droite, oui, et notamment de l'extrême droite, jouent beaucoup. C'est beaucoup moins le cas, par exemple, des populismes de gauche. Une nuance pourtant, le Mouvement 5 étoiles, qui est ni de gauche ni de droite en Italie, a beaucoup insisté aussi sur cette question. C'était un des ressorts de ces campagnes politiques, en disant que, justement, il fallait faire confiance aux jeunes. Et remarquez que Luigi Di Maio, qui est leur dirigeant, est un jeune dirigeant.
Ministre des Affaires étrangères. Intéressant de voir d'ailleurs que ce mouvement 5 étoiles qui est né grâce à l'informatique, on a vu que c'est sur une plateforme du nom de Jean-Jacques Rousseau d'ailleurs, que ces militants, c'est-à-dire un tout petit nombre de gens, ont décidé de l'accord pour entrer dans une alliance avec le centre-gauche.
C'est un des nouveaux paradoxes de ce mouvement 5 étoiles. Surtout qu'on ne sait jamais comment est véritablement organisée cette consultation. Et qui la gère. Hein.
Et donc, encore une fois, le creuset de l'Europe d'aujourd'hui.
Oui, vous avez raison, je crois qu'on n'a pas assez encore travaillé. Vous l'avez dit, Agnieszka, vous dites, du côté polonais, par exemple, on n'a pas pris en compte assez cette dimension démographique. Ce que nous a dit François Héran me semble aussi tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a des corrélations là, sur lesquelles on doit beaucoup plus travailler, parce qu'il y a les réalités démographiques, mais il y a les conséquences politiques, et surtout, moi je dirais presque, ce que ça véhicule comme imaginaire, en particulier, dont joue un certain nombre de formation et de partie.
Eh bien, merci à vous tous de nous avoir ainsi éclairés. Merci à vous, Marc Lazare. Je rappelle l'ouvrage que vous co-signez avec Ivo Diamanti, Peuplecratie, la métamorphose de nos démocraties, chez Gallimard. Merci à Jacques Rupnik. Jacques, bientôt un livre en Italie qui s'appelle « Sans le mur », donc j'imagine que c'est « Sans le mur » de Berlin, aux éditions Donzelli, et bientôt aux éditions Odile Jacob, si vous le terminez à temps. un ouvrage qu'on lira avec beaucoup d'intérêt. Merci à vous, Agnieszka Fiel, de l'Université de Varsovie, de Versailles et de Saint-Quentin en Yvelines. Merci bien sûr à François Héran, professeur au Collège de France, à Ivan Krastov, dont l'ouvrage que je recommande vivement, c'est un petit livre mais très éclairant, Le Destin de l'Europe, paru en octobre 17 aux éditions Premier Parallèle. Merci à Michel Zlotowski pour son excellente traduction. Hamdan Mostafavi signait la chronique de Courrier International. À la réalisation ce matin, Luc Jean Reynaud. À la technique, Cindy Le Grumelec. C'est Hugo Boursier qui m'a aidé à préparer cette émission. Et maintenant, comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end.